Plusieurs, je crois, sont pour la première fois dans cette clairière. C'est vrai ou non? Oui. Alors, voyez, c'est notre cathédrale à ciel ouvert. Et nous en bénissons le Seigneur. Parce que nous avons eu depuis 17 ans des moments vraiment bénis. Et nous croyons que le Seigneur qui ne change pas nous réserve encore une plus grande grâce. Dieu notre Père, en effet, nos cœurs s'élèvent vers toi pour réclamer tout ce que tu as promis dans ta parole. Nous savons que de ton côté, il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles sont toujours de notre côté. Nous voulons te demander que, par la puissance de ton esprit, tu nous permettes de les appeler par leur nom, de les abandonner et de te laisser vraiment pénétrer jusqu'au plus profond de nos cœurs, que ta parole ait une influence même dans la moelle de nos os, afin que physiquement nous connaissions ta puissance aussi qui régénère. Tu es le Dieu de notre corps comme tu es le Dieu de notre âme et le Dieu de notre esprit. Et nous nous abandonnons entièrement à toi. Tu te souviens de quoi nous sommes formés. Tu te rappelles que notre force n'est pas la force des pierres, que notre chair n'est pas des reins, que nous ne sommes qu'un souffle. Et tu as compassion de nous, comme un père a compassion de ses enfants. Et ton cœur est le cœur d'une mère. Nous te bénissons pour tout ce que nous trouvons en toi, pour tout ce que nous apprenons de toi, en lisant ta parole. Qu'aujourd'hui encore, nous soyons bénis de ta bénédiction à laquelle tu n'ajoutes aucun chagrin. Et pour ta seule gloire en Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes donc le 28 juillet dans la matinée du lundi et nous poursuivons inlassablement notre thème qui donc est Dieu en recherchant tout ce que peut nous apporter le cantique des cantiques à mesure que nous le sondons. Et en sondant le cantique des cantiques, nous sondons les Écritures. Et Jésus a dit de ces Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est donc toujours la personne du Seigneur que nous désirons découvrir. Et quelques beautés de plus de sa parfaite image. Et quand nous découvrons en lui quelques beautés de plus, que nous arrive-t-il? Sa beauté se réfléchit sur nous. C'est cela qui est extraordinaire. Quand nous nous regardons en nous, nous sommes découragés, mais quand nous le regardons lui, et que nous découvrons quelques merveilles sur sa face adorable, parce que toute la gloire de Dieu, toutes les perfections divines qui forment la gloire de Dieu, il est dit qu'elles resplendissent sur la face du Christ. Alors quand nous le contemplons, eh bien il nous arrive, sans qu'on en ait conscience, que par son esprit, eh bien nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Les beautés que vous découvrez dans le Seigneur viennent sur vous. Alors recherchez sa beauté. Comprenez-vous? Recherchez sa beauté. Non pas essayez de vous améliorer, essayez de vous changer. C'est pas cela. Finissez-en avec tous ces efforts stériles. Vous avez été déçu, je le sais, vous avez pris des décisions, vous pensiez que ça tiendrait, puis ça n'a pas tenu et vous êtes retombé. Mais mes amis, C'est pas en regardant toujours vos chutes, confessez vos péchés, appelez-les par leur nom et c'est terminé. Ne traînez pas le fardeau de vos péchés après vous, comme si Jésus ne les avait pas portés, comme si Jésus ne les avait pas expiés. Et alors on vous voit triste avec un long visage, on vous voit anxieux, la proie du doute, mais tout cela déshonore votre Père des cieux, qui dit alors je les ai tant aimés, je leur ai donné mon Fils, qui a tant souffert, et il semble qu'il a souffert pour rien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Galates. Jésus n'est pas mort pour rien, il est mort pour des péchés qui ont un nom, mais avouez-les. Ayez assez d'humilité pour dire « c'est vrai ». J'ai essayé de vous lire ce matin parce que le Seigneur m'a parlé, sais-tu, de ce qu'il voit dans notre cœur. Et vous avez vu là les 13 merveilles du cœur humain dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Le Seigneur ne se fait pas d'illusions sur ce qui est dans notre cœur. Il nous en a fait la liste et c'est ce cœur corrompu, ce cœur malodorant, c'est ce cœur-là que le Seigneur vous a demandé, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est lui qui va changer toute chose et il va mettre en vous un cœur nouveau. Non pas un cœur amélioré ou une transplantation cardiaque. Parce que, voilà, vous donnez maintenant vos organes à une banque pour survivre plus ou moins dans le corps d'une autre personne. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit que le cœur de Jésus lui-même vienne battre en votre cœur. Et c'est pas un cœur mécanique. Croyez-le bien. C'est plus avancé que cela, les opérations de Dieu. On vous a déjà dit qu'il est toujours en avance. C'est lui qui est l'auteur de la première narcose. Vous le saviez? C'est quoi une narcose? On voit qu'ils ont une pleine santé, ces gens-là. Ils n'ont jamais été endormis. Une anesthésie. L'auteur, celui qui a mis en avant l'anesthésie, c'est Dieu lui-même. Il a opéré Adam. Ah oui, voilà, ça arrive à la centrale. Il a opéré Adam. N'est-ce pas? C'est ça qui est merveilleux, justement. Je suis heureux de ça, parce que tout d'un coup, on fait une découverte. Hein? Puis on dit, mais si j'avais lu ça, mais au sommeil d'Adam. Mais Dieu allait l'opérer. Et il ne fallait pas qu'il hurle pendant qu'il lui façonnait Ève. Il fallait au contraire qu'à son réveil, il soit tellement bien, sans mot de cœur, comme on les avait autrefois parce qu'on nous avait endormis à l'éther, pas de vomissement, mais un ravissement. Hein? Ben voilà, cette fois, celle-ci est rose de mes os, chair de ma chair. Elle correspond. C'est tellement beau, il ne l'a pas encore touché. C'est pas le mariage à l'essai. Il la reçoit des mains de Dieu. Et quand on reçoit sa femme des mains de Dieu, on sait que Dieu ne nous trompe pas. Et quand on est donné par Dieu à un homme, on sait que Dieu aussi ne nous donne pas à n'importe qui, parce qu'on lui appartient. Et c'est là que se règle vraiment le vrai mariage. Qui tombe en désuétude aujourd'hui. Et on en a peur. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur, toujours peur? Parce qu'on n'est plus dans la communion de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, moi, je pourrais croire que telle personne peut me correspondre. C'est peut-être vrai. On a des atomes crochus, tu me plais, je te plais, ça va bien. Hein? Alors, ça a l'air d'être comme ça. Mais dans 5 ans, l'un et l'autre, peut-être pas même dans 5 ans, on aura fait chacun notre petite évolution, puis on aura peut-être fait d'autres rencontres. Et alors avec les yeux que nous avons, si nous les avons gardés pour nous, avec le cœur que nous avons, les oreilles que nous avons, Et suivant ce que l'on regarde, eh bien nous serons tout prêts à regretter de nous être décidés pour telle personne, et nous nous dirons, mais le divorce n'est pas fait pour les chiens. Hein? C'est des expressions très courantes. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit au bonheur? Bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est d'être dans l'union avec le Seigneur. Car lui est le Dieu bienheureux, il est la source du bonheur. Et lui, et quand il nous met ensemble, il sait ce que nous serons dans 5 ans, il sait ce que nous serons dans 10 ans. Et quand je reçois maintenant des lettres de ceux qui étaient au bord du divorce, de la rupture et de tout, et pour lesquels on a prié, pour lesquels on a travaillé de tout notre cœur et qui nous écrivent, nous nous apprêtons maintenant à vieillir ensemble pour la joie de nos enfants. Bien, ça nous fait du bien. L'amour retrouvé, un renouvellement dans l'amour. Pourquoi ne le croyez-vous pas? Et pourquoi ne faites-vous pas confiance au Seigneur? Pour la personne qui devra peut-être partager votre vie. Et puis, ne croyez pas que c'est la fin des haricots si on ne se marie pas. Ne croyez pas que c'est le désastre. J'ai connu bien des femmes qui ont été des femmes de Dieu et qui ont influencé, je l'ai souvent répété, ma jeunesse, ma première jeunesse, disons, mon adolescence. Ces femmes dont nous chantons des cantiques encore aujourd'hui. Je pense à Adèle Pella, j'avais 13 ans quand je l'ai rencontrée. J'ai encore le goût de son chocolat. Cette femme de Dieu en Suisse, qui à 20 ans a compris que Dieu l'appelait à une autre tâche qu'à se marier et à donner des enfants à un homme. Mais elle a compris que Dieu l'appelait à une mission parmi cette jeunesse dévoyée déjà de la ville de Calvin à Genève. Et elle a fondé, en louant un vieux garage, ce qu'on a appelé l'Étoile. Et l'Étoile à Genève a duré 50 ans. Et il y a eu des multitudes de conversions et des hommes qu'elle a ramassé dans la rue et qui sont devenus, comme j'en ai connu un en particulier, conseiller fédéral dans notre gouvernement suisse, et qui avait gardé la foi, qui a gardé la foi. Nous avons eu pendant la guerre plusieurs hommes de Dieu à la tête de notre gouvernement suisse qui a été épargné, et la nuit où l'Allemagne devait attaquer la Suisse, si la charnière de Sedan tenait à la ligne Maginot, eh bien nous le savons, notre général, général Guizon, et tout le Conseil fédéral étaient en prière jusqu'à 4 heures du matin, sur leurs genoux, demandant à Dieu d'épargner ce pays. Et c'est là que la charnière de Sedan a cédé, hélas, pour nos bien-aimés de France. Et ce fut l'envahissement. Mais il y a une chose, je ne mets pas la Suisse en avant, je m'humilie parce que nous avons trop de péchés, c'est quelque chose d'abominable en Suisse comme ailleurs, et j'ai peur pour la Suisse aussi. Mais je peux dire quand même qu'il y a eu des hommes de Dieu, le docteur Wallen en particulier, qui 2 ans avant l'attaque d'Hitler, l'envahissement de l'Europe et toutes ces doctrines, avait conseillé, avait établi un plan pour que tous les Suisses fassent 2 mois de provision. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de marché noir en Suisse? Eh bien parce que 2 ans avant la guerre, toutes les personnes du peuple suisse avaient une liste et devaient faire 2 mois de provision. Et il fallait renouveler cela, hein, pour que ça ne se détériore pas. Et au moment où il y a eu la guerre, eh bien, tous les magasins ont été fermés. Tous les stocks ont été contrôlés et on nous a donné des cartes de rationnement. Et comme ça, il n'y a pas pu y avoir ce qui a fait tant de mal, le marché noir, dans d'autres pays. On avait ce qui était nécessaire, ce qui était juste suffisant. Mais on ne pouvait pas acheter des sacs de sucre ou des tonnes de beurre, hein, puis après les revendre à un prix effroyable. Bien, mes amis, voilà qui est-ce qui était derrière certains de ces hommes? Peut-être une femme qui ne s'est pas desséchée parce qu'elle ne trouvait pas un mari. Du reste, c'est pas à elle de le trouver. C'est au Seigneur de le lui envoyer, de le lui donner. Et au lieu de se dessécher, elles ont demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire de moi? Et elles ont eu beaucoup d'enfants et qui ont bien tourné par la grâce de Dieu. Et vous savez, quand je vois, j'ai vu des pasteurs qui ont passé par ce qu'on appelait l'étoile et qui étaient illuminés encore quand ils parlaient d'Adèle Pella, cette femme qui leur parlait des hommes vaillants de David, des hommes forts de David, d'où venait-il? C'était de pauvres types d'Israël qui avaient rejoint un homme poursuivi par Saül et qui était dans une caverne, des gens dans les dettes, des gens qui n'avaient plus d'avenir et qui se sont joints à David. Et David en a fait ces hommes vaillants. Eh bien, Adèle Pella disait, eh bien voilà, n'est-ce pas, vous pouvez en Jésus-Christ, si vous lui laissez votre vie, si vous lui appartenez, vous pourrez devenir des hommes vaillants qui serviront dans votre peuple. Vous allez dire, il est tout à fait perdu avec ce souvenir de femme. Je pourrais vous en parler d'autres, mais quand on nous parle de l'émancipation de la femme, et qu'on voit ce que sont certaines de ces femmes à la tête du mouvement de libération féminin, ça fait mal au ventre. Les femmes de Dieu, le parfum de Christ, et puis des hommes aussi, qui ont compris que le célibat n'est pas une catastrophe. Tout le monde n'a pas la grâce du célibat, mais le Seigneur peut donner aussi la grâce du célibat. Il y a certainement un ministère qui ne peut être fait souvent que par des célibataires, suivant l'appel qu'on a reçu. Parce que sans cela, ça n'irait pas avec une femme qui verrait son mari toujours loin. Il faut alors, si c'est le cas, que cette femme ait accepté la vocation de son mari et qu'on soit marié comme ne l'étant pas, pour qu'il n'y ait pas de conflit et qu'on soit toujours d'accord et qu'on n'empêche pas l'un ou l'autre de servir le Seigneur. Dieu, premier servi, et toutes les autres choses nous sont données par surcroît. La question pour nous, c'est pas de savoir si c'est le mariage qui est la bonne voie ou si c'est le célibat. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Je m'abandonne et je te fais éperdument confiance. Mais tu n'es pas l'auteur des mariages malheureux. Car Dieu est un Dieu de bonté. Et il peut aussi restaurer ce que malheureusement nous avons pu détruire. Nous avions les versets 4 à 9 du chapitre 6. Mais vous voyez, je préfère peut-être que nous nous laissions conduire par ce que l'Esprit veut nous donner pour que ça corresponde à nos besoins. Chapitre 6, nous lisons depuis le premier verset. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné? Et nous le chercherons avec toi. C'est ces filles de Jérusalem et qui maintenant sont intéressées par ces bien-aimés qu'on vient de leur dépeindre, elles commencent à avoir un intérêt pour lui parce qu'elles ont entendu. Une femme qui était même dans un état spirituel dépressif, mais qui, tout à coup, s'est souvenue de ce qu'il était réellement, son bien-aimé. Et alors elle l'a dépeint avec des paroles de feu, avec un amour qui était tel qu'on se dit, c'est pas possible. Pour qu'elle ait, elle l'aime comme ça, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Et la manière dont cette personne nous parle du Seigneur nous enflamme. On sent que c'est pas des théories, on sent qu'il y a quelque chose de vrai là derrière. Et alors, on voudrait nous aussi le rencontrer. Oh, que le Seigneur nous donne de ne pas parler n'importe comment de Jésus. C'est pourquoi quand je vois le nom de Jésus un peu partout, bien je me dis, on traîne tellement ce nom dans la boue que les gens ne sont plus intéressés. Figurez-vous, on veut faire de l'évangélisation. Alors comme au Québec, on n'a plus la plaque devant, il a fallu tout de suite que des gens qui ne perdent pas la tête, qui sont peut-être chrétiens, mais business, quand même, eh bien, on va faire des textes bibliques, puis on va vendre cela. Puis ils penseront qu'ils évangélisent. Jésus t'aime comme tu l'es. Puis voilà que vous violez une des lois de la route, vous écrasez un bonhomme qui est là-dessous, qui regarde, vous l'avez amoché sérieusement. Mais il dit, Jésus t'aime comme tu es. C'est de l'évangélisation. Et vous croyez que vous recommandez le nom du Seigneur? C'est des moyens faciles, mais c'est des moyens légers. Alors on traîne le Seigneur dans la boue. Le nom de Jésus, le seul nom qui est donné aux hommes, par lequel il fallait être sauvé, on ne le met pas n'importe où. Il doit être dans notre cœur. Ayez de la révérence pour ce Seigneur. Et ne pensez pas que vous avez évangélisé le monde parce que vous avez mis un texte. Ou bien alors, vous avez des pulls maintenant, vous avez toutes sortes de choses. Peut-être même des shorts avec le nom de Jésus. Oh, vous seriez tout prêt à vous asseoir sur le nom de Jésus. Mais on en arrive là. Il y a une telle folie, une telle aberration. On a perdu tout bon sens. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les séraphins se couvrent la face de leurs ailes devant le Saint des Saints. Et puis, ils s'exhortent l'un l'autre en disant « Saint, Saint, Saint ». Les séraphins s'exhortent à la sainteté. Mais nous, eh bien, tout est bon. On met le Seigneur à toutes les sauces. Et vous savez, là aussi nous aurons à répondre de ce que nous avons fait du beau nom de Jésus. À cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les nations. Et nous dévaluons le nom de Jésus par certaines méthodes, tout en pensant que là, nous n'avons pas honte du témoignage. Vous croyez que c'est un témoignage? Qu'est-ce que c'est le témoignage? D'avoir un texte biblique sur son habit ou dans son auto. Le témoignage, c'est une vie quotidienne et peut-être silencieuse. D'abord, jusqu'à ce que les gens vous interrogent et vous disent, mais pourquoi toi tu es autre que les autres? Pourquoi est-ce que ta vie me frappe? Tu ne fais pas ceci, tu ne dis pas cela, on ne t'entend pas sacré. Hein? Tu n'emploies pas le nom de Dieu en vain. Tu n'es pas croyant? C'est justement parce que je le suis. Et vous serez tout prêt à répondre avec douceur à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et ça aura du poids. Ça aura du poids. On vous écoutera. Vous n'assassinerez pas quelqu'un à coup de verset biblique pour le convertir en quatre temps de mouvement. Que Dieu vous parle et me parle à moi. Verset 2. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin au parterre des aromates pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, redoutable comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de Galade. Tes dents comme un troupeau de brebis qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux et pas une d'elles n'est stérile. Ta joue est comme un quartier de grenades derrière ton voile. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Ma colombe, ma parfaite, elle est unique. Elle est l'unique de sa mère, la choisie de celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vue et l'ont dit bien heureux. Les reines aussi, elle est concubine et elles l'ont louée. Maintenant, je me tais, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous a été donné si vous avez fait cette lecture et si vous avez demandé au Seigneur, qu'as-tu à me dire de personnel? Je ne vous demande pas un commentaire biblique, mais comment avez-vous compris une certaine chose qui vous a touché? Parce que sans ça, alors, si vous avez lu puis que rien ne se passe, rien ne se produit, ça ne vous touche pas, je serai obligé de vous dire comme Jésus, ma parole n'a pas d'accès auprès de vous. C'est pourtant la parole que Jésus donnait, mais lui-même constatait qu'elle n'avait pas d'accès auprès d'eux. Mais est-ce que la pointe de l'épée, parce que cette parole est vivante et permanente, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, est-ce que cette parole a pu vous atteindre? Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qu'elle vous a dit? Oui?
Au verset 4, moi, dans la fin, dans la fin de la lecture, c'est pas forcément clair pour moi, mais au début, c'est plus clair. C'est le mot redoutable qui m'a fait penser que j'aurais peut-être mis temporairement en oubli le fait que le Seigneur nous avait donné la promesse de quoi que voici, je vous donne le marché sur les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, rien ne saurait vous nuire. Par contre, réjouissez-vous pas de ça, mais plutôt que votre nom est écrit dans les cieux.
Oui.
C'est ça que j'ai pensé, parce que c'est quand la bien-aimée, elle est comme Jérusalem, donc elle est en paix avec le Seigneur, ça veut dire que notre communion avec Dieu est établie parce qu'on a confessé nos fautes. À ce moment-là, on est revêtu de l'autorité que Jésus-Christ a dans les cieux, parce que lui, c'est lui qui est maître de toutes choses. Donc, s'il est en nous, on a victoire.
Et on devient redoutable. On devient une puissance que le Seigneur t'a employée. Je suis heureux que le Seigneur t'ait montré cela, parce que c'est dans la ligne biblique de ce qui arrive quand on a retrouvé la communion. Oui.
Moi, quand je lis les versets 8 et 9, et on parle des fesses de la mère, de celle qui l'a enfantée, ça me fait penser à Marie, un feu qui a donné naissance à Jésus, qui l'a rendu vivant sur la terre. Et ça m'a fait penser que ici, on parle de la bienheureuse, de la bien-aimée, donc ça peut être nous ici. Alors, si on accepte Jésus, on peut nous aussi le rendre vivant sur la terre, pour nous donner une naissance, puis il va devenir vivant, puis on va tout de suite être bienheureuse.
Exactement, parce que tu vois, le Seigneur, quand on lui a dit « ta mère et tes frères te cherchent hein, », vous vous souvenez de ce moment où Jésus est occupé à parler à ses disciples, on lui dit « ta mère et tes frères te cherchent ». Et alors il regarde, il promène ses regards sur eux tous, puis il dit « qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» C'est vrai qu'on peut y voir Marie là-dedans, mais d'une façon plus élargie encore, comme tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Merci, Joanne, d'avoir partagé cela. Donc, vous voyez que le Seigneur vous parle dans le Cantique des Cantiques et qu'il vous fait du bien. Et alors, si vous avez trouvé un peu de nourriture, vous continuerez dans cette veine. Quelqu'un d'autre? Oui?
Le bien-aimé, qui compare sa bien-aimée à deux villes, la ville de Sitka et Jérusalem. Il a été cette parole-là qui dit que tu es agréable comme Jérusalem. Puis, je pensais un peu, je pensais au psaume 122, qui dit Jérusalem est bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que monte le tribut de l'Éternel. Selon la loi d'Israël, pour louer le nom d'Éternel, car là sont les tombes de la justice, les tombes de la maison de David. Souvent, j'ai l'impression d'avoir la vie en mille morceaux. Et voici Jérusalem bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est comme ça que Dieu nous voit, nous désire, tout ce qu'il a rendu sur nous. Et c'est pour moi un encouragement de voir que Dieu nous considère tel, malgré.
Et tu vois, tu touches un point là, il y a une unité intérieure, n'est-ce pas? Au lieu de cette division qui est souvent en nous, à cause de toutes les combattistes qui font la guerre à l'âme, alors tout est divisé en nous. Tandis que le Seigneur nous amène justement à une unité comme Jérusalem doit être réunifiée. Il y a déjà eu un pas de fait en 67, historiquement, mais c'est un verset dont les Juifs nous parlent beaucoup hein, pour justifier la réunification de Jérusalem. C'est une ville dont toutes les parties doivent être liées ensemble. Mais là, alors il y a aussi toute l'interprétation prophétique qui nous montre ce qu'il y aura dans le futur. C'est vrai. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui?
Moi, c'est le verset 2, là, mon bien-aimé est descendu dans son jardin et parti en dehors de la maison.
Plus fort, si possible.
Oui. Lorsque parfois on sert Dieu, on s'imagine qu'il est loin, ou Jésus, qu'il est loin. Finalement, oui, il est là dans notre jardin. Même si on s'en aperçoit pas, ben, il fait du travail dans notre jardin. Puis au bout des éclairs, on s'aperçoit que Jésus est encore là. Ça m'a permis, par exemple, de grandir ces éclairs-là. Même si je n'ai pas senti Jésus, mais je m'aperçois que oui, il était toujours là. Puis travaillait dans mon jardin. Puis au bout du compte,
C'est tout à fait juste. Et c'est bon, hein, tu le dis, ça t'a fait du bien. Hein. Et ça nous fait du bien aussi, que le Seigneur t'ait fait du bien, par cette parole, parce que nous sommes le corps de Christ. Hein. Ce qui réjouit un membre nous réjouit. Et c'est si vrai. Si vous avez lu depuis le commencement le Cantique des Cantiques, dans les moments où la bien-aimée a réalisé une espèce d'absence de son bien-aimé et qu'elle a voulu le retrouver, quand elle est allée dans les villes, hein, dans les rues, qu'est-ce qui lui est arrivé? Que des désagréments. Vous ne retrouverez jamais le bien-aimé ou le sentiment de sa présence en allant dans le monde, en cherchant dans le monde. Vous n'aurez que des déceptions et des blessures. Deux fois, on le voit, hein. Chapitre 3, quand elle a voulu aller, qu'elle a demandé aux gardes, là ils ne l'ont pas encore frappé, mais la deuxième fois, elle retourne pour le chercher dans le monde. Elle ne le trouve pas. Et c'est très juste, le bien-aimé était au plus profond de son cœur. Et c'est elle qui devait rentrer en elle-même, au lieu de le chercher partout, alors qu'il nous habite. Et comme tu l'as souligné, elle a compris maintenant que, au fond, elle est à lui. C'est pas seulement lui qui est à nous, mais nous sommes à lui. Et à cause de cela, personne ne peut nous ravir de ses mains. Nous sommes sa possession. Et il a payé assez cher pour ne pas nous perdre. Alors ça nous rassure. C'est tonique la parole. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est ce que tu peux voir. Mmh. Ça peut être aussi une interprétation, puisqu'il y en a 70. Mais il y a peut-être aussi une autre pensée, tu vois, que le Seigneur veut te donner. Mais ce qu'on a vu d'abord, il faut en tenir compte. Tu peux toujours tenir compte que, oui, ça pourrait être ça. Mais ce que nous allons voir peut-être après ne va pas être en opposition. Nécessairement, oui.
Moi, c'est le verset 8, Seigneur, qui parle des 60 reines, des 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Vous voyez ça comme cette nuit de témoins qui sont déjà sont auprès du Seigneur et toutes les autres élus qui lui appartiennent vraiment. Mais à travers toute cette nuée, il me voit comme la colombe, la parfaite. Chaque élu, chaque âme est individuel pour lui. Il habite dans chaque âme et il ne me regarde pas plus petit et moins bien qu'un autre témoin. Et puis, ceux-là, les témoins qui lui appartiennent, qui sont auprès de lui, ils sont contents de me voir aussi parce que je suis une colombe. Et puis, ils m'apprécient. Ça me rappelait les textes lorsque les gens s'étaient mis à prophétiser dans le camp. Et puis, il y en a certains qui s'objectaient, et moi, ils disaient qu'ils puissent tous prophétiser. T'sais. Alors, ils ne sont pas jaloux de moi parce que c'est le Seigneur qui les habite.
C'est vrai. Vous voyez, il y a une richesse qui se dégage de la parole. Et c'est ce partage des pensées qui nourrirait tout un troupeau au lieu qu'on laisse tout au pasteur. Comme s'il pouvait tout donner. Si chacun, les uns et les autres, n'est-ce pas, nous apportions ce que le Seigneur nous a donné sous le contrôle de Dieu, il y aurait un enrichissement pour tous. Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Quelqu'un d'autre?
La fille a été produite au palais, puis là, c'est la connaissance des reines. Les filles l'ont vue, ils l'ont toute bienheureuse. Les reines ici, les concubines, elles l'ont louée. Les reines, avec leur petite spéciale dans le harem, on pourrait dire, ils n'ont pas été jaloux. C'est comme Nous autres, quand on voit une nouvelle conversion, nous autres, que ça fait longtemps qu'on est des vieilles brebis, on regarde les nouveaux-nés, puis on est enchanté de ça, on voit leur nouvelle forme. Ça nous fait raisonner, de voir que ça en est un petit peu comme une reine. Une reine, ça fait longtemps qu'elle est établie, puis elle voit la nouvelle concubine arriver, puis là, ben, ça la rajeunit, la voir.
Mm-hmm. L'essentiel dans tout ce que vous voyez, c'est que ça vous rapproche du Seigneur, c'est que les pensées vous édifient, et que tout converge vers une relation plus intime de la personne de Jésus. Alors, nous allons simplement faire un petit résumé. Au chapitre 6, dans les versets 2 à 3, nous avons vu que la fiancée réalise de nouveau où se trouve le cœur de son bien-aimé et où il vient pour son plaisir. Elle est redevenue consciente qu'elle-même est son jardin. C'est vrai, elle est son jardin. Et qu'au fond, le bien-aimé est dans son jardin. Il était descendu dans son jardin. Elle avait perdu conscience qu'il était là. Pourtant, il était là au plus profond d'elle-même. Et puis, alors, elle sait maintenant qu'elle est à lui, elle peut dire « Je suis à mon bien-aimé ». Et vous voyez, elle parle de ses parterres des aromates, elle parle de lys, toutes choses qui nous montrent que le Seigneur est dans un lieu où tout est convenable et en rapport avec ses goûts. Parce que qui est-ce qui a donné les aromates? C'est le Seigneur. Il est chez lui. Il est dans ses aromates, mais qui sont en elle. Il paie parmi les lys, et c'est lui qui a revêtu les lys des champs, comme nous l'avons vu. Alors, il n'y a rien à corriger ou à blâmer. Vous ne voyez aucun blâme. Elle a retrouvé le bien-aimé, elle est rentrée en elle-même. Ça me fait penser à ces deux disciples de Jean-Baptiste qui, ayant entendu le témoignage de Jean-Baptiste, qui dit « Voilà l'agneau de Dieu », ils suivent Jésus, c'est Jean et André, et Jésus se retourne et dit « Que cherchez-vous ?» Elle dit, où demeures-tu? Et qu'est-ce que Jésus répond, venez et voyez. Et il est dit qu'ils demeurèrent avec Jésus ce jour-là. Mais où les avait-il conduits? Dans le sein du Père. Ils demeurèrent avec Jésus ce jour-là. Et Jésus nous conduit où toujours? Au Père. Et alors passer une journée dans le sein du Père, quelle merveille! Et ce qui nous frappe, on peut dire que les deux disciples, quand ils ont trouvé le Seigneur qui les a conduits jusqu'au Père, qu'ils ont vécu un jour dans ces parvis qui valaient mieux que mille ailleurs, comme on lit dans le psaume 84. Et plus loin, alors en partant, en continuant, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais nous allons simplement survoler ces textes. Ce qui me frappe, et ce que je trouve merveilleux, c'est que le Seigneur ne fait aucun reproche. Donc il n'y a pas, malgré les manquements de la bien-aimée, elle ne se sent pas culpabilisée, elle ne vit pas dans cet esprit d'accusation. Et elle est délivrée d'une mauvaise conscience. Quand on est dans la communion du Seigneur, il purifie notre conscience et nous sommes libérés d'une mauvaise conscience. L'esprit accusateur n'est plus là. Satan a été chassé. Arrière de moi, Satan. Et alors, l'âme est dans les profondeurs de Dieu. Le Seigneur paie son troupeau dans des conditions marquées par la pureté des lys. Et là, tout est irréprochable. Donc, toute question de manquement est laissée derrière, non par indifférence ou par endurcissement, mais parce que la conscience, on a conscience d'une entière délivrance spirituelle. Et c'est cela que nous devons manifester. Si vous avez le Seigneur, il est assez grand, assez puissant pour nous donner une entière délivrance. Et alors, nous l'écoutons. Et qui nous frappe, justement, le bien-aimé ne parle que de la beauté de son ami. Et alors, il fait des comparaisons. Il l'a comparé à un jardin avant, puis maintenant, il compare la bien-aimée à une ville, Tirsa. C'était la capitale du royaume du Nord avant que soit bâtie par Omri, le père d'Akab. Quelle ville qui serait la capitale? Samarie. Tirsa, c'était la capitale avant la Samarie. Et alors, le Seigneur compare justement à la bien-aimée, à cette capitale qui était très belle, qui est belle comme Tirsa, mais aussi belle comme Jérusalem, qui était la capitale d'où? Du royaume de Juda. Mais encore, justement, Juda et les 10 tribus étaient séparés, mais un jour le Seigneur va aller réunir. Alors, il ne faut pas s'arrêter à Tirsa, il ne faut pas s'arrêter non plus à Jérusalem. C'est beau, n'est-ce pas? C'est des images, mais ça va être changé. Et Tirsa peut perdre le rôle de capitale, et puis Jérusalem peut se corrompre, c'est ce qui est arrivé. Mais en finale, Jérusalem sera restaurée, et les 10 tribus et les deux tribus Juda et Benjamin seront réunifiées. Alors on pourrait partir sur ces lignes prophétiques. Mais nous passons plus loin. Tu es redoutable comme des troupes sous leur bannière. Et alors, ce que nous pouvons voir ici, c'est que quand le Seigneur lui-même est devant notre cœur, quand nos pensées sont dominées par lui, eh bien, la fiancée se trouve dans un état de vainqueur. La fiancée se trouve dans un état de vainqueur. Elle devient redoutable. Redoutable parce qu'elle est entièrement la possession de son bien-aimé. Et c'est lui qui va mener le combat. C'est lui qui est sur le trône. Et alors, il nous dit que Il se réjouit de nous voir vraiment comme des troupes sous leur bannière. Et quelle est cette bannière? C'est l'amour. Ce qui vaincra les âmes, c'est l'amour. Vous ne vous trompez jamais, même avec vos ennemis, même avec ceux qui vous ont fait du tort. Aimez, aimez encore. C'est ce que le Seigneur dit. Et c'est par l'amour que vous triompherez. un homme aussi que j'ai connu autrefois, un chrétien d'élite, Auguste Cartier-Latente, qui venait aussi de cette ville de Calvin, de Genève, a écrit un petit bouquin que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, « Je riposte par l'amour ».« Je riposte par l'amour ». Quelle est votre riposte? Si vous êtes dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il vous a appris? Si on vous frappe sur la tendue de l'autre, vous désarmez les gens, parce que eux, ils voudraient que vous donniez le second coup de poing. Vous donnez le premier, ils s'attendent à ce que vous donniez le second, pour pouvoir continuer. Mais quand vous ne frappez pas, puis que vous tendez la joue, ils hésitent. Et voilà, le climat change. Il y a une puissance dans l'amour. Et nous avons revêtu l'armure complète de Dieu. Et alors nous arrivons au verset 5. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Oh mes amis, si nous étions vraiment ce que nous devrions être pour le Seigneur, vous savez, le Seigneur n'est pas dur, mais son cœur serait bouleversé. Et il emploie un langage, n'est-ce pas, tout à fait humain pour dire c'est plus possible. Tu me donnes tellement de joie que j'en suis, en quelque sorte, troublé. Ça dépasse tellement tout ce que je vois maintenant en toi que ça me trouble. Jésus, vous pouvez lire les évangiles, à plusieurs reprises, il a été troublé. Quand il a vu, par exemple, Marie pleurer aussi, il y a toute cette affaire de compassion. Quand il a vu la femme qui avait perdu son fils, ne pleure pas. Quand il voyait aussi toute cette souffrance. Mais quand il peut voir dans une âme ses progrès, il est ravi. Il y a d'autres pensées aussi. Notre sœur nous en a dit une. On pourrait en dire d'autres. Je ne veux pas dire plus. Je désire que vous recherchiez tout ce que cela veut dire. Parce que il faut même, quand on regarde le Seigneur, faire attention. Il faut nous souvenir qu'il y a des moments où nous devons baisser les yeux. Et j'ai parlé des séraphins qui se voilent la face en la présence de Dieu, devant sa sainteté. On pourrait parler de Moïse devant le buisson ardent. Il est dit, il se détourna pour voir. Et le Seigneur l'avertit. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Il y aurait plusieurs lignes que vous pouvez méditer et qui vous apporteront des richesses. Et alors ceux qui ont lu les chapitres précédents, qu'est-ce qui vous frappe? Vous vous souvenez pourtant que la bien-aimée a été en faute, qu'elle s'était endormie. Et pourtant, quand le Seigneur lui parle, qu'est-ce qu'il lui redit? Il la voit de la même manière. C'est beau, hein? Il n'a pas baissé le ton. Hein? C'est toujours la même valeur. Il reprend exactement les mêmes paroles. Tu es toujours cela, que ce soit ses yeux, que ce soit ses cheveux, et même on pourrait dire avec ses yeux que ça va encore plus loin, hein, mais ses cheveux qui sont comme des troupeaux de chèvres sur les pentes de Galade. C'est donc qu'on emploie pour se nourrir. C'est toujours comme le troupeau de brebis qui monte du lavoir. Il emploie exactement les mêmes expressions qui ont toutes des jumeaux et pas une d'elles n'est stérile. On aura encore l'occasion de revenir sur cela. Cajou, il emploie la même expression, c'est son visage, mais comme un quartier de grenade. Et quand on ouvre une grenade, c'est seulement quand on voit un quartier de grenade qu'on peut se rendre compte que l'écorce de la grenade, l'extérieur, est assez rugueux. Il faut voir l'intérieur, qui est dans toute sa beauté, l'intérieur d'une grenade. Derrière ton voile, on a parlé de cela, ce que c'est que derrière ton voile, c'est toujours dans l'humilité. Et voyez-vous, cette humilité nous convient, et dans l'Église aussi. Et voyez-vous, cette vie cachée qu'on a dans le Seigneur, comme on voit l'intérieur de la grenade, ça nous parle de cette vie cachée dans le Seigneur. Quand on adore, il convient d'être voilé. Je ne comprends pas que très souvent, les sœurs pensent que c'est plus pour elles de se voiler. Alors que les anges, les séraphins dans l'adoration, ils se voilent la face. Et si c'était compris, mais d'une façon vraiment spirituelle, bien l'adoration, quand une femme adore, elle devrait être voilée à mon sens. Moi, je n'imposerai pas. Parce que si c'est qu'une coutume, si c'est qu'une forme de piété, ça vaut rien. Mais si votre cœur est convaincu, j'entends toujours l'exclamation de mon ami Chantendal, qui a été à Genève le modérateur de tous les pasteurs de l'Église nationale de Genève pendant des années, un homme de Dieu, brigadier de la Drôme en France, qui a travaillé au réveil de ces contrées de Dieu le Fils et d'ailleurs. On était ensemble une fois dans un camp à Florence. Il y a bien de cela 35 ans. Puis on voyait toutes ces sœurs d'Italie qui étaient venues, des toutes jeunes, qui venaient de Calabre, de Sicile. Toute la botte était représentée. Du bas de la botte jusqu'au haut. Et même la Sicile. Il y avait 250 campeuses et campeurs. Et toutes ces filles qui étaient voilées pour la prière. Et Édouard Chantendal me disait, vous savez Gaston, ça m'impressionne, c'est tellement beau, et c'est tellement divin. Et c'est vrai, quand on revient à la source, on trouve des raisons, qu'évidemment vous ne trouverez pas dans le monde, mais on trouve des raisons valables, mais soyez convaincus. Je ne vais pas vous prêcher le voile. Derrière ton voile, il y a une dignité. On ne voit pas la femme comme on ne devrait pas voir l'homme aussi. Nous avons à en prendre de la graine, nous autres. Parce que si nous ne nous voilons pas, il y a une manière d'être qui fait qu'un homme est voilé. Voilé sans voile. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une humilité où on ne voit pas l'homme qui se met en avant. Cette chair qui veut toujours paraître, mais qui disparaît. Un homme voilé, le patron du Québec, c'est qui, selon le monde religieux? Jean-Baptiste. Mais quand il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Voilà un serviteur qui sait ce que c'est qui est derrière son voile. C'est beau la parole. Quand nous nous laissons instruire et enseigner dans le silence. Alors évidemment, il y a les 60 reines et les 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Vous savez, Dieu est le père de plusieurs familles, hein, de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Noël nous a parlé de cette nuée de témoins. Eh bien, il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous, mais il y en a d'autres. Le Seigneur connaît toutes les familles dans les cieux et sur la terre. J'aime beaucoup Éphésiens chapitre 3, où nous trouvons justement ces versets. Où l'apôtre dit au verset 14, « Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Est-ce que ça ne nous dit rien? Or, à celui qui peut faire infiniment plus, est-ce que vous le croyez? Vous pensez à quelque chose? Je voudrais que vous pensiez à quelque chose, à un besoin que vous avez. Pensez à un besoin précis que vous avez. Eh bien, le Seigneur vous dit qu'il peut faire infiniment plus que tout ce que vous demandez est penser ou imaginer. Selon la puissance qui opère en nous. Donc vous voyez, il y a une puissance qui opère où? En nous, vous n'avez pas besoin de la chercher en dehors. Elle opère en vous. Prenez conscience qu'il y a une source de puissance plus forte que la puissance atomique ou thermonucléaire. Il y a une puissance qui est en vous et qui voudrait se manifester. Et donner toute gloire au Seigneur. Alors, il y a un témoignage. Il y a d'autres personnes. On peut rejoindre le psaume 45 que nous méditions hier matin. Il y a des reines, il y a des concubines, il y a des jeunes filles, donc des âmes qui sont en relation, qui ont été en relation, qui sont en relation avec le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, mais comme ça a été souligné, ma colombe, ma parfaite est unique. Vous devez toujours vous dire, non pas parce que vous vous complaisez en vous-même, ou que vous vous croyez meilleur que les autres, vous pouvez toujours vous dire, je suis unique pour le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est tonique. Vous êtes unique pour le Seigneur. S'il n'y avait eu que vous sur la terre, comme pécheur, Dieu vous aurait donné son Fils. Qui aurait fait la même chose pour une personne, comme il le fait pour le monde entier. Mais chacun de vous, vous êtes dans une relation unique. Nous avons parlé de cela avec la chevelure, les cheveux, n'est-ce pas, qui sont comme les troupeaux de chèvres, ces troupeaux qui sont donc, c'est une chevelure qui est comparée à un troupeau, donc il y en a plusieurs de troupeaux, mais enfin il y a une unité, et chaque cheveu, on l'a vu, hein, a une valeur. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il y a un troupeau, mais il y a aussi chaque âme individuellement. Alors, voilà, vous êtes unique, l'unique de sa mère. Bien sûr, on peut aussi voir Israël dans la mer, ou on peut aussi voir la mer de notre Seigneur, qu'elle a choisie de celle qu'il a enfantée. Le salut vient des Juifs, le Seigneur le reconnaissait. Et alors, si vous êtes juif, et ceux qui seront juifs pendant la tribulation, ils liront le cantique des cantiques et ils auront des encouragements extraordinaires. Par ce livre, nous en avons des encouragements quand nous le lisons à la lumière de ce que nous connaissons et de ce que nous sommes, membres de l'Église du Christ. Et nous en jouissons. Donc c'est pour tous les temps que la parole est valable. Les filles l'ont vue et l'ont dite, bienheureux. Ça, c'est les mêmes expressions qui sont données au sujet de Marie et au sujet de Jaël. Et vous pourriez trouver encore chercher dans la Bible chaque fois qu'il est parlé d'une bienheureuse. Les reines aussi, les concubines. Elles l'ont loué. On a rejoint Éphésiens chapitre 3. Eh bien, l'heure étant venue, nous arrêtons ici. Et pour ce soir, vous lisez la suite de ce chapitre. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce bain que tu nous fais prendre dans ta parole. Sanctifie-nous par cette vérité. Et maintenant que les uns et les autres nous allons à d'autres occupations, nous te demandons de nous garder dans ta communion. Et que où que nous soyons, quelles que soient nos distractions, dont nos corps ont peut-être aussi besoin, ont nécessairement besoin, que nous puissions rester tout près de toi, dans toutes nos activités, sachant que tu es toujours avec nous. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira, que nous restions ensemble, dans l'unité, dans un seul corps et dans un seul esprit, avec toi. Amen.